NPR News.
France Inter, le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Jour dans le monde, c'est un jour de plus au Proche-Orient ce soir.
C'est Yoav Gallant,
le ministre de la Défense israélien, qu'on entend. Les troupes se retirent de Ragnounès, dit-il, pour se préparer à leur future mission. Nous avons vu des exemples de ces missions lors de l'opération à l'hôpital Al-Shifa, ainsi que leur future mission dans la région de Rafah. Comme ça, au moins, les choses sont claires. C'est la dernière déclaration de Yoav Gallant qui a dit autre chose aussi récemment, et on en parlera ensemble. Bonsoir, Agnès Levallois.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes et Moyen-Orient. Vous êtes maîtresse de conférence à la Fondation pour la recherche stratégique et chargée de cours aussi à Sciences Po. Je le disais, ça a le mérite d'être clair. Moi, je lis deux choses et vous allez me dire si je me trompe dans ce que dit Yoav Gallant. Il dit, en creux, d'une part, nous retirer, ça nous laisse l'opportunité, vous laisse l'opportunité, vous Gazaouis, de quitter Rafah, de revenir, même si du coup ça fait moins de monde, parce qu'on sait très bien qu'il y aura une offensive. Est-ce que ça dit en creux, si on est en train de se regrouper, parce qu'il y a autre chose à venir derrière, et peut-être plus au nord? Donc ça parle pas de retrait, ça ne parle de guerre, ça parle de guerre du début à la fin, ou pas?
Oui, absolument, ça parle complètement de guerre, et on voit bien que dans cette annonce de retrait de Khan Younes, c'est aussi un moyen pour les Israéliens de dire que les civils qui sont bloqués à Rafah, et on sait qu'il y a plus d'un million de personnes, et que l'exigence américaine, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de civils qui soient touchés. Et donc, c'est une façon de dire, bah, écoutez, déplacez-vous. Alors que vous étiez au nord, vous êtes allé au sud. Maintenant, vous dites de remonter vers Khan Younes, avec un mépris total pour cette population civile qui est vraiment baladée au gré des déclarations et des destructions.
Il dit aussi, il l'a dit là aujourd'hui, Yoav Gallant, ce ministre de la Défense, il dit, nous sommes en un moment opportun, et notamment pour un éventuel cessez-le-feu et d'éventuelles discussions. Et là aussi, est-ce que c'est une manière de dire nous sommes en position de force? Je peux comprendre que l'armée le dise. Est-ce que ça a du sens réellement de dire nous sommes en position de force? Est-ce qu'au fond c'est vrai?
Pas vraiment, parce qu'on est, vous l'avez rappelé, après 6 mois de bombardement, avec des objectifs qui avaient été fixés par Netanyahou au début, qui était d'éliminer la présence du Hamas dans la bande de Gaza. On voit bien qu'il n'y arrive pas. Et que le Khan Younes était un objectif pour l'armée israélienne parce qu'il s'agissait de trouver le responsable du Hamas, si noir, qui est originaire de Khan Younes. Et on voit bien que de toute façon, cet objectif n'a pas été atteint. Et donc, l'objectif maintenant, c'est de rassembler les forces, aussi de faire en sorte que l'armée composée en partie de réservistes aille se reposer un peu avant de repartir. Mais tout ça pour dire qu'au bout de 6 mois, aucun des objectifs n'a été atteint, puisque les otages n'ont pas été libérés, et qu'il y a une pression de plus en plus grande en Israël même pour la libération des otages, que les plus hauts responsables du Hamas n'ont pas été pris par l'armée israélienne, et que la bande de Gaza est détruite. Donc je ne sais pas en quoi ces objectifs ont été atteints.
Alors les objectifs atteints, en tout cas les hauts gradés, c'est pas dans la bande de Gaza visiblement qu'ils ont été tués. On entend parler de nouvelles phases. Gaza est rasée donc ou presque. Le Hezbollah est visé au Liban de manière récurrente et régulière. Et puis il y a eu cette attaque contre le consulat iranien de Damas avec la mort d'un très haut gradé qui s'appelle Mohamed Reza Zaidi. Et c'est important parce que c'est celui qui était chargé de l'envoi des munitions au Hezbollah notamment. Qu'est-ce que ça nous dit, ça aussi, quand il dit qu'on repose l'armée d'abord et qu'on repart derrière? Est-ce que ça dit aussi nous sommes prêts à ouvrir d'autres fronts et nous allons vers l'ouverture d'autres fronts?
Mais Netanyahou, je pense, est tout à fait décidé à aller sur cet autre front qui est le front libanais. On sait très bien que là aussi, pour faire un peu oublier l'absence de résultats plus significatif dans la bande de Gaza, qu'il peut tout à fait être tenté de se diriger vers le nord, de se lancer dans une opération contre le Hezbollah, que là aussi il y a une pression de la part d'une partie de la population israélienne, en particulier ceux qui habitent le nord du Liban et qui ont quitté le nord du Liban et qui aimeraient bien retourner chez eux, mais qui ne veulent pas y retourner tant que une zone de sécurité n'aura pas été établie au sud Liban, et que pour ça, pour Netanyahou, la seule solution, c'est d'attaquer. Et dans ce message qui a été envoyé par cette attaque à Damas, hein, de cette emprise diplomatique quand même dans la capitale syrienne, le consulat, ce qui est quand même un acte qui va à l'encontre du droit international si on respecte ce droit international. Et donc c'est un message très clair pour dire, en fait, on fait ce qu'on veut, on a les renseignements qui nous permettent d'atteindre des hauts responsables.
Est-ce que le message est aussi un piège tendu à l'Iran qui dit chiche, allez-y, et on sait très bien que, enfin, vous allez nous le dire, mais que la capacité de l'Iran en ce moment est compliquée, que jusqu'à présent, s'ils avaient voulu engager un front nord avec le Hezbollah, ils l'auraient fait et ils ne l'ont pas fait. Donc est-ce qu'Israël est en train de dire au Liban, allez-y, chiche, et vous allez voir comment on répondra ?
Moi, je crois que Israël tente de pousser l'Iran à la faute, c'est-à-dire que Israël souhaite, à mon avis, que l'Iran réplique, et l'Iran, pour l'instant, ne veut pas répliquer, parce que l'Iran est tout à fait conscient qu'il a tout à perdre en répliquant, et ce qu'on ne peut pas exclure, c'est que l'Iran, en revanche, agite ou incite des groupes, et je pense plus particulièrement présents en Irak, pour mener des opérations contre, éventuellement, comme ça a déjà été le cas par le passé, contre des intérêts américains en Irak. Mais je ne vois absolument pas, mais soyons très prudents évidemment, mais je ne crois pas que l'Iran va se lancer dans une riposte, même si le discours va dans le sens, évidemment, d'une réaction. Mais l'Iran sait très bien que s'il réplique, à ce moment-là, ce sera la porte ouverte pour une réaction beaucoup plus forte de la part d'Israël. Et donc Israël, je crois vraiment, cherche à provoquer l'Iran dans cette affaire.
En même temps, moi j'ai lu que la mort de Mohamed Reza Zahedi était à peu près du même acabit, si je puis dire, que la mort de Qassem Soleimani en 2020, là, qui avait été tué par les Américains. Est-ce que ces personnages-là sont de la même hauteur et donc appellent effectivement une réponse de toute façon parce que la hauteur du personnage est très importante?
C'est un personnage important parce que c'est lui qui était en charge effectivement de la force Al-Quds, qui est donc la branche armée des gardiens de la révolution, qui est vraiment le corps qui protège la révolution islamique et qui est chargé de toutes ces opérations à l'extérieur de l'Iran. Donc évidemment que c'est un personnage important qui était en charge de la Syrie et du Liban, donc avec toute la stratégie iranienne, bien sûr. Mais même si c'est un personnage très important, comme il les décrit, et c'est effectivement le cas, de là à réagir avec les conséquences que ça pourrait avoir sur l'Iran, qui sait très bien que une réaction israélienne mettra à mal aussi toute sa stratégie à venir. Et donc l'Iran, pour l'instant, sont des stratèges iraniens. Ils le démontrent quand même de façon spectaculaire, si je puis dire, depuis maintenant quand même des années, et dans cette affaire-là, tout particulièrement.
Et mais même à l'époque de la mort de Soleimani, d'ailleurs, si on s'en souvient, qu'est-ce qu'il y avait eu comme représailles, ce n'est pas grand-chose.
Et donc, il y a eu effectivement, de temps en temps, il y a des opérations contre les Américains en Irak, parce que c'est peut-être la chose la plus facile à faire. Il y a le Hezbollah qui continue à mener des opérations quand même ponctuelles sur le nord d'Israël. Mais là aussi, le Hezbollah sait très bien qu'il ne doit pas aller trop loin, puisque quand on voit même le nombre de pertes côté libanais, en comparaison au nombre de pertes côté israélien, il n'y a pas de commune mesure. Donc il y a plus de 350 morts des combattants du Hezbollah aujourd'hui au Liban. C'est déjà énorme pour ce mouvement qui est effectivement agit en partie pour le compte des Iraniens.
Quand Netanyahou dit « nous sommes à un pas de la victoire », on entend bien ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de dire à sa population. Vous l'avez dit vous-même, on est en plus dans une période où les manifestations monstres et importantes contre lui ont repris. Donc ça veut dire qu'on recommence à faire de la politique en Israël, ce qui est toujours une bonne nouvelle. En fait, quand on fait de la politique, quel que soit le pays dans lequel, dans lequel on est, à un pas de la victoire, est-ce qu'une offensive sur Rafah pour en finir avec Gaza, est-ce que vous y croyez, Agnès Levallois? Est-ce que vous pensez que c'est le futur immédiat, c'est ça?
Alors, il va y avoir une opération sur Rafah, ça je crois que effectivement, le Netanyahou l'annonce trop, depuis trop longtemps, pour qu'il ne se passe rien. Maintenant, les pressions américaines quand même sur Rafah sont importantes, mais ce que je crains, c'est qu'avec cette décision de quitter Khan Younes, et qui est donc un moyen maintenant pour les Israéliens de dire aux civils, partez, et si vous partez pas, tant pis pour vous, et s'il y a des pertes, nous ne serons pas responsables, eh bien, ça justifie à mon avis le fait qu'on va aller vers cette offensive de Rafah, qui sera peut-être un peu moins douloureuse, parce qu'effectivement, ou dramatique, parce qu'une partie des civils essaye de remonter maintenant vers le nord, mais ça risque d'être catastrophique, sauf si les Américains arrivent à retenir Netanyahou de ne pas aller dans cette opération. Mais je crains, avec tous les éléments qu'on vient de développer, que cette opération libération aura lieu sur Rafah, mais peut-être dans des proportions moindres que ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques jours.
Une trêve là pendant cette période-là où effectivement donc Israël partiellement se retire d'une partie de la bande de Gaza. Les discussions au fond elles se poursuivent même si elles sont extrêmement laborieuses. Vous y croyez à cette trêve-là ou pas, Agnès Levallois?
Pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'on avait dit quand même que le mois de Ramadan était vraiment la période au cours de laquelle il devait y avoir une trêve. Cette trêve n'a pas eu lieu et les bombardements ont continué. Donc maintenant tout le monde dit pour l'Aïd, mais l'Aïd a lieu demain. Donc la fête de fin de Ramadan, tout ça me paraît... Je crois que toutes ces discussions et toutes ces annonces, c'est simplement pour gagner du temps. Et pendant ce temps-là, les bombardements continuent et c'est la population civile de Gaza qui continue à payer le prix fort. C'est vraiment gagner du temps en permanence, faire croire que, mais au bout du compte, ni le Hamas... ni Netanyahou ne souhaite aujourd'hui une trêve. Donc on est vraiment dans une impasse terrible pour la population civile. Revenons quand même à ça qui est quand même le plus important dans cette affaire.
Ni le Hamas, ni Israël ne souhaitent réellement une trêve. Et vous l'avez dit, le Hezbollah ne souhaite pas un conflit ouvert, alors que Israël souhaiterait, lui, elle, un conflit ouvert. Et pour les raisons que vous nous avez expliquées, on a déjà dit qu'on était dans une impasse dans ce conflit. J'ai l'impression qu'on est plus que dans une impasse, là. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, en fait, là où nous sommes à ce stade du conflit, 6 mois après.
Oui, dans une situation qui est absolument, j'allais dire, infernale. Ouais. Parce que quelle que soit l'analyse qu'on essaye de faire de la façon la plus froide possible en évaluant les rapports de force, on s'aperçoit qu'on a d'un côté un Netanyahou qui, de toute façon, pour rester en place et qui joue tellement gros personnellement, qui est prêt à mettre ce territoire à feu et à sang, comme on l'a vu maintenant depuis 6 mois. Et de l'autre côté, on a un Hamas qui, effectivement, sait qu'il peut être en perte de vitesse parce que les Gazaouis payent tellement cher qu'il y a le risque qu'ils se retournent. Une partie des Gazaouis se retourne contre le Hamas alors qu'il a engrangé des gains en Cisjordanie en particulier. Et donc le Hamas joue gros aussi en termes de crédibilité. D'ailleurs, il a présenté des excuses
absolument,
à la population
la semaine dernière,
ce qui était une façon de dire on sait que tout ça. Mais pour l'instant, on voit bien que le Hamas n'est pas prêt non plus à faire des pas pour une trêve. Donc on a les deux parties qui ne sont pas du tout dans un rapport de force équivalent. Il y a une asymétrie terrible, mais en même temps, avec une possibilité des deux côtés de maintenir ce conflit en l'état et avec le drame que ça représente.
Et ça fait 6 mois, c'est déjà le plus long qu'ait connu cette région, Agnès Levallois. M'est avis que vous allez revenir. J'ai envie de dire hélas, mais ce serait toujours avec plaisir. Merci beaucoup de votre passage chez nous.